Je vous rends mon manteau. Daniel Goa a annoncé en ouverture du congrès de l'Union calédonienne aujourd'hui qu'il ne souhaitait pas être réélu à la présidence du parti. L'UPM a pris ses distances avec le FLNKS. Son président Victor Tutugoro était ce midi l'invité d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence. Vous l'entendrez dans ce journal. Les forces de sécurité sont en nombre suffisant, mais il faut rester extrêmement prudent. Ce sont les propos du haut-commissaire ce matin sur notre antenne. Emmanuel Moulin, inspecteur général des finances et ancien directeur de cabinet de Gabriel Attal quand il était Premier ministre, sera sur le territoire la semaine prochaine. Le judiciaire et verdict attendu dans le procès des coups mortels sur la plage de Magenta. Deux hommes comparaissent libres depuis hier pour avoir battu à mort un membre de leur famille en juin 2021. Et puis un programme culturel et sportif bien chargé pour ce week-end sur le territoire avec notamment la 19e édition de la Nouméenne qui réunira plus de 5000 marcheurs et coureurs en soutien aux femmes atteintes du cancer du sein. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans InfoSoir pour tout savoir de l'actualité en Calédonie et dans la région Pacifique. Je vous rends donc mon manteau. Ce sont ces mots de Daniel Goa. Il a annoncé qu'il ne souhaitait pas être réélu à la présidence de l'Union calédonienne. Et il n'a fait dans le discours d'ouverture du 55e congrès de l'Union calédonienne, Jean-François Baudin.
Oui, congrès qui est réuni depuis la mi-journée à la tribu de Mia à Canala et qui a été préparé dans un contexte compliqué, je vous le rappelle, puisque le calme n'est pas vraiment revenu dans cette commune de la côte Est, mais aussi parce que le congrès se réunit 6 mois après le déclenchement des émeutes de la CCAT, émanation de l'UC. Daniel Goa a donc d'abord longuement évoqué la situation de l'Union calédonienne dans son discours, souligné ses difficultés internes et ses défis, et il a donc annoncé qu'il ne souhaitait pas être réélu à la présidence du mouvement.
Ce congrès de l'UC marquera aussi la fin de ma gouvernance au sein de notre mouvement, que je préside depuis le 18 novembre 2012. Lorsque vous m'aviez fait cet immense honneur, en me chargeant de la lourde responsabilité d'endosser le manteau de la présidence de notre mouvement, je ne mesurais pas encore le poids de la tâche qui m'attendait. Aujourd'hui, je vous rends le manteau. Et si j'avais été totalement à la hauteur, ce manteau serait plus léger à porter par mon successeur.
Et Daniel Goa a ensuite donné un conseil. Au regard de son expérience, a-t-il précisé à l'équipe qui doit lui succéder ?
Je vous mets en garde de ne pas vous enfoncer dans les conflits internes. Ils n'apportent rien et éloignent nos militants de l'action. Je vous dis cela parce que on voit pousser tout doucement des germes d'antagonismes régionaux, menaçant l'unité et la sérénité de notre mouvement. Le choix nouveau du bureau doit sortir du schéma habituel des calculs, des opportunismes ou même de volonté d'équilibre interrégion. Le nouveau bureau doit sortir de la routine et envisager avec ambition l'avenir qui nous appelle. Il doit être placé sous le signe de l'unité et de la jeunesse.
Et quoi qu'il en soit, la mobilisation demeure, a poursuivi Daniel Goa, faisant référence à l'action de la CCAT. Il a une fois de plus évoqué le sort des militants détenus en métropole en parlant encore de prisonniers politiques et demandant leur libération. Daniel Goa a ensuite évoqué la situation du FLNKS. Il a rappelé qu'il jouait un rôle central et il avait évoqué aussi la décision du PALIKA et de l'UPM de se mettre en retrait du front.
Il est l'interlocuteur incontournable. Notre FLNKS, conformément aux motions du congrès de Lansvata, demeure l'unique interlocuteur pour la décolonisation au nom du peuple colonisé. Nos frères du FLNKS, PALIKA et UPR, ont pris leur distance avec le fonctionnement du front. Le FLNKS est la maison commune à nous. Elle est ouverte à tous, mais on ne peut pas forcer à y rester ou à y rentrer. On n'a pas le droit de fermer la porte.
Enfin, Daniel Goa a évoqué la récente visite de Gérard Larcher de Yael Braun-Pivet et il s'était interrogé lui aussi sur la notion de souveraineté partagée évoquée par le président du Sénat.
La souveraineté, on sait la définir. C'est l'autorité suprême qui prévaut. Mais pourquoi lui adjoindre cet adjectif de partager ? Quelle partie de la souveraineté manquerait à notre pays ? On sent bien que la France veut implicitement garder les compétences régaliennes pour elle-même laisser le pays n'être souverain que tout au plus sur ses affaires intérieures.
Et après ce discours, les militants poursuivent les travaux de ce 55e congrès de l'Union calédonienne à huis clos jusqu'à dimanche. Et c'est à la fin du congrès qu'ils doivent renouveler les instances du parti et élire leur nouveau président.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est donc l'heure d'opinion. Votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Notre question du jour concerne justement l'Union calédonienne qui réunit ce week-end son 55e congrès. Doit-elle, selon vous, changer de président? Si vous pensez que l'UC doit changer de président, vous tapez 1. Si vous pensez qu'elle doit reconduire Daniel Goa, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 31-46. La réponse à notre question d'hier maintenant. Dans la perspective des discussions sur l'avenir, 92% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS se disent favorables à l'union des partisans de la France au sein d'un seul parti qui ressemblerait à ce qu'était le RPCR. Ils sont 8% à dire qu'ils n'y sont pas favorables. Merci à tous pour votre participation. Le FLNKS a tourné le dos à la poignée de main de Matignon. Il a abandonné les valeurs qui étaient les siennes. C'est la conviction de Victor Tutugoro, le président de l'UPM, qui était ce midi l'invité d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparent. Jean-François.
Victor Tutugoro qui a expliqué la prise de distance de l'UPM à l'égard du FLNKS. Il déclare d'abord avoir été surpris par les violences insurrectionnelles du mois de mai, qu'il rappelle avoir très vite condamnées. Il revient aussi sur les valeurs auxquelles est attaché l'UPM, l'un des partis fondateurs du FLNKS.
Le progrès, mais aussi, on a redit par exemple à notre congrès que nous voulons avant tout un pays démocratique qui fait du droit à la différence, le droit à la diversité, un principe qui veut qu'il soit appliqué avec le principe de la liberté de conscience, de la liberté de religion, de la laïcité. Mais nous disons aussi qu'il faut continuer à les dire, il faut continuer à rappeler toutes ces valeurs, parce que ce sont des valeurs qui fondent une société. Et aujourd'hui, les jeunes générations n'ont pas toujours. Hein. Ils ne voient que ce qu'ils voient là, ils ne mesurent pas les conséquences ou ne font pas le retour esprit en arrière. Quand ils disent, par exemple, ben, rien n'a été fait depuis la provincialisation.
Beaucoup de choses ont été faites en 30 ans, affirme le président de l'UPM, qui rappelle que le rééquilibrage a été entamé. Et il cite les progrès en matière d'enseignement, de santé, de routes, d'infrastructures, infrastructures, de développement ou de mines, notamment dans la province nord. Et Victor Tutugoro rappelle que l'UPM souhaite une clarification au sein du FLNKS.
Toutes les valeurs que j'ai indiquées tout à l'heure, c'était indiqué dans le projet que le FLNKS a porté en 2018 et qui a enregistré la validation des 43% de la population. On estime à ce moment-là, ben, ce projet-là, il a été validé. Et dans ce projet, il y avait toutes ces valeurs. Ben, avec les événements depuis le 13 mai, ben, tout ça a été jeté aux orties, comme on dit. C'est pour cela qu'on dit qu'il faut une clarification. Parce qu'on a apporté un certain nombre de valeurs. Et ben, depuis le 13 mai, ça a été tout cassé. On a fait le contraire de ce qui était dit dans ce projet politique porté par le FLNKS.
Lors de son congrès des 9, 10 et 11 novembre à Poum, l'UPM a décidé de se mettre en retrait du FLNKS, rappelle Victor Tutugoro. Mais auparavant, il avait toujours été d'accord avec les décisions du FLNKS jusqu'au congrès de Pagou.
C'est simplement ce congrès de Pagou pour lequel on n'était pas d'accord, parce que nous avons estimé que le FLNKS, à ce moment-là, depuis le 13 mai, a tourné le dos à la poignée de main historique entre Jean-Marie Thibault et Jacques Lafleur. Parce que, qu'est-ce qu'elle veut dire, la poignée de main? La poignée de main, elle veut dire, moi, je te reconnais. Je te reconnais, toi, dans tout ce que tu es, dans tout ce que tu représentes, les uns les autres. On se reconnaît et on accepte de construire ensemble, dans le dialogue. Et ça n'a pas été le cas. Depuis 13 mai, on a tourné le dos à cette poignée de main. Et donc, à la solution négociée que le FLNKS a préconisée jusque-là, on est venu, pour ainsi dire, à des rapports de force.
L'UPM a donc décidé de se mettre en retrait du FLNKS, mais le Front indépendantiste existe encore, estime le président de l'UPM.
Le FLNKS n'est qu'un outil qu'on se donne pour faire le travail ensemble. Et donc, à partir du moment où il y a d'autres organisations qui sont là, l'Union calédonienne, le RDO, qui porte une grande part de responsabilité dans les choses où on en est arrivé là, le RDO et les autres composantes sont toujours dans le FLNKS. Ben, c'est à eux de faire fonctionner ce FLNKS aujourd'hui. Nous, on a dit, ben, parce qu'on n'est pas d'accord sur les décisions qui ont été prises à Koumak, n'est pas d'accord déjà sur le fait que le congrès s'est réuni alors que deux des composantes n'étaient pas présentes. On n'a jamais fait jusque-là en 30 ans ou 40 ans d'histoire du FLNKS. Et donc, on a décidé de se mettre un peu en retrait.
Et c'est dans ce contexte que l'UPM et le PANICA ont décidé de mettre en avant la démarche unie, celle de l'Union pour l'indépendance qu'ils ont créée en 2014.
Nous avons décidé donc de nous mettre en retrait, de ne pas participer, donc de nous organiser en interne pour continuer à porter le combat pour lequel on y croit depuis un moment déjà, c'est de dire on veut l'indépendance en partenariat, on veut construire avec toutes les composantes de la Nouvelle-Calédonie, du pays de Nouvelle-Calédonie, On veut construire le pays nouveau de demain avec tous les citoyens du pays. Et c'est ensemble qu'il faudra qu'on aille chercher la solution. Donc c'est sur cette ligne-là que l'on est aujourd'hui, qui n'est pas partagée assurément au sein du FLNKS, et donc qui est partagée par contre au sein de l'UNI.
Pour autant, il y aura toujours des relations entre l'UNI et l'UCFLNKS, déclare Victor Tutugoro, en évoquant les discussions sur l'avenir institutionnel et en indiquant que les cellules de négociation de tous les partis, sauf l'UC, se sont réunies ces derniers jours pour un travail de synthèse des discussions précédentes. On a avancé sur les dossiers annexes, dit-il, mais pas sur la sortie de l'accord. Et il évoque l'hypothèse d'un référendum de projet.
Nous, l'Union nationale, on est d'accord sur cette vision des choses pour dire qu'il faut peut-être qu'on arrête de proposer des référendums d'autodétermination, mais passer au stade de référendum de projet. Le référendum d'autodétermination, on a vu, ça a clivé, ça nous a amené au bord de la guerre civile. Et l'idée de référendum de projet va amener une autre mentalité, une autre manière de travailler. Et donc, on sera un peu plus dans l'apaisement. Et on a besoin d'apaisement aujourd'hui au sortir de la crise qu'on connaît depuis le 13 mai. Parce qu'il faut reconstruire le pays, il faut reconstruire économiquement, mais il faut reconstruire aussi mentalement.
Victor Tutugoro qui déclare encore que les décisions du congrès de l'UC donneront le tempo de la mouvance indépendantiste, mais qui se montre optimiste sur la possibilité d'un accord. Une interview qui sera rediffusée dimanche soir, ce sera juste après notre édition de 17h45. Elle est déjà retrouvée en audio et vidéo sur notre site internet.
Les forces de sécurité sont en nombre suffisant, mais il faut rester extrêmement prudent. C'est le commentaire du haut-commissaire qui était ce matin notre invité et qui a été interrogé sur la situation de l'ordre public en Nouvelle-Calédonie, alors que l'on parle d'une diminution des effectifs des forces de l'ordre. Il reconnaît qu'il y a une normalisation de la situation, mais Saint-Louis reste, dit-il, un point de vigilance. Et il y a aussi des tensions dans plusieurs communes de la côte Est. Pour lui, il faut donc garder un volume de forces suffisant.
Aujourd'hui, nous avons encore 30 escadrons de gendarmerie mobile, ce qui est beaucoup. On va en perdre 2, donc on passera de 30 à 28 à la fin du mois de novembre. Et dans le courant du mois de décembre, on nous en prélèvera encore 4, donc on tombera à 24. J'espère qu'on en restera là. L'amélioration actuelle sur l'ensemble du territoire calédonien, il faut qu'elle se poursuive, parce que si elle ne se poursuit pas, je demanderai à ce qu'il n'y ait plus de retrait de force. J'ai calculé avec le commandant de la gendarmerie et le directeur de la police nationale, compétent sur Nouméa. Pour le Grand Nouméa, là où il y a eu 98% des destructions, il faut 20 escadrons gendarmerie mobile, pas en dessous. Donc moi, c'est le plancher. Donc je l'ai fait savoir à une autorité politique nationale que 20 escadrons, c'était le seuil en dessous duquel il ne fallait pas descendre, sinon on prenait des risques.
Le haut-commissaire rappelle qu'au mois de mai, lors du déclenchement de l'insurrection, il n'y avait que 6 escadrons pour faire face à 10 à 12 000 émeutiers. Aujourd'hui, il y en a 30 et cela lui semble adapté. À cela s'ajoute aussi la présence de CRS qui ont été envoyés à Nouméa pour faire face aux émeutes.
Les CRS n'avaient pas pour vocation d'être engagés en Nouvelle-Calédonie. Ils l'ont été. C'était surtout des compagnies CRS de la région Île-de-France. Pour l'instant, je les ai. Ça fait partie des 30 forces qui sont déployées sur le terrain. Ceux qui ont la main sur les octrois ou les retraits de force me feront savoir si, oui ou non, on garde ou pas les compagnies CRS. Les compagnies CRS, ce sont des unités qui ont plutôt vocation à intervenir en milieu urbain. Donc ici, sur Nouméa, ils ont démontré leur savoir-faire. Ils sont très mobiles, très efficaces. Et ils sont d'ailleurs à pied d'œuvre toutes les nuits, comme ça a été le cas la nuit qui vient de s'écouler.
Maintenant que l'on s'achemine vers une normalisation, certains se demandent si un tel volume de forces de l'ordre est encore nécessaire. Pour le haut-commissaire, c'est le cas. Ces effectifs sont justifiés, car les risques demeurent et il faut rester très prudent, insiste Louis Lefranc.
Moi, je reste très prudent sur l'institution calédonienne. Les braises sont là, les émeutiers là, qui étaient très très nombreux, sont toujours là. Ils peuvent être réactivés dans des délais extrêmement courts. La casse sur l'agglo de Nouméa, on a vu ce que ça a produit. Ça a plongé des milliers de familles dans le malheur. Ça a un impact sur les collectivités calédoniennes qui voient leurs recettes fiscales chuter environ 30%. On voit aussi toutes les entreprises qui ont été démolies et par système celles qui ont été impactées et qui n'ont pas été démolies. Donc c'est tout un ensemble qui est fragilisé. Et je ne suis pas sûr que ceux qui ont commis ce qu'ils ont commis soient dans une logique de repentance, je pense qu'ils sont prêts à recommencer. Donc, s'ils recommencent, ils auront en face d'eux les forces de l'ordre qu'on engagera avec vigueur et avec célérité. Donc, il me faut un volume de force significatif. Ce message a été parfaitement compris en haut lieu. Et donc, non, il n'est pas surdimensionné, il est à la bonne dimension.
Et concernant le maintien du couvre-feu et des diverses mesures administratives, le haut-commissaire annonce un assouplissement d'ici la fin de l'année. Les mesures actuelles sont en vigueur jusqu'à lundi inclus. Louis Lefranc communiquera donc lundi sur les évolutions éventuelles. Une nouvelle visite importante en Nouvelle-Calédonie. Il s'agit de celle d'Emmanuel Moulin, inspecteur général des finances, qui a été de janvier à septembre 2024 le directeur de cabinet de Gabriel Attal, alors Premier ministre Jean-François.
Oui, Emmanuel Moulin arrivera sur le territoire lundi prochain, 25 septembre, accompagné par plusieurs hauts fonctionnaires. Il va rester toute la semaine. C'est lui qui a été chargé par le Premier ministre Michel Barnier de mener les travaux de préfiguration de la délégation interministérielle à la Nouvelle-Calédonie, dont la mission sera de poursuivre la démarche d'accompagnement du territoire par l'État, accompagnement sur toute la partie économique. Il poursuivra notamment les travaux menés par la mission reconstruction pour définir les points d'application du soutien de l'État, ainsi que les besoins techniques nécessaires aux réformes prévues dans les plans PS2R. Il rencontrera donc lors de son séjour en Calédonie les acteurs économiques du territoire, mais aussi les acteurs politiques, puisque l'État entend aussi accompagner le territoire sur le chemin de la reprise d'un dialogue pour parvenir à un accord politique.
18h03, vous êtes sur Radio Rythme Bleu. On marque une première pause dans ce journal avant de parler notamment du congrès des maires qui s'est tenu ces derniers jours à Paris.
Vous cherchez une expérience unique à Nouméa ? Découvrez l'Entrecôte au 360. Un restaurant panoramique avec une vue imprenable sur le lagon et la ville. Ouvert les vendredis, samedis et dimanches pour le déjeuner. Et à partir de 17h les vendredis et samedis, réservé au 23 90 90.
Depuis quand tu fais autant les magasins ?
J'ai trouvé le secret pour dépenser moins.
Ah ouais ? T'as gagné au bingo ou quoi ?
Mieux que ça, j'ai découvert l'appli MDF avec le pass MDF. Ça te donne accès à des tarifs avantageux.
Sérieux ? T'as chopé ça où ?
Vous êtes adhérent de la MDF ? Alors téléchargez l'application dès maintenant. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.mdf.nc.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La suite du journal, Léo Fichou.
Le congrès des maires s'est refermé, porte de Versailles à Paris. L'association des maires de France et son président David Lisnard ont permis à Pascal Vittori de prendre la parole en clôture de l'événement en présence du Premier ministre Michel Barnier afin d'alerter sur la situation des municipalités du territoire.
Pascal Vittori, le maire de Boulou-Paris, est président de l'association française des maires de Nouvelle-Calédonie, s'est donc exprimé pendant près de 6 minutes. Il a débuté son propos par un état des lieux de la situation et il a interpellé le Premier ministre en lui indiquant que les maires du territoire étaient à sa disposition pour trouver des solutions face à la crise qui existe aujourd'hui en Calédonie et il a dégagé plusieurs pistes de réflexion.
Parallèlement au dispositif déjà déployé par l'État, mes collègues maires, mes équipes et moi-même avons identifié, monsieur le Premier ministre, avec l'aide du président Lisnard et de ses équipes, des dispositifs susceptibles de permettre à la nation de se tenir aux côtés des communes de Nouvelle-Calédonie. Un fonds de solidarité qui permettrait l'octroi de subventions exceptionnelles dès 2024, une révision du seuil de l'assiette de répartition du fonds intercommunal de péréquation dédié au fonctionnement des communes afin de garantir, comme l'article 49 de la loi organique le stipule, le maintien des dotations, un mécanisme de prélèvement sur recettes visant à compenser les pertes de recettes de nos communes. Enfin, une loi d'orientation spécifique à la Nouvelle-Calédonie permettrait de consolider à long terme les budgets communaux dans une logique pluriannuelle. Cette démarche s'inscrirait dans une politique de grands travaux initiée par le gouvernement local.
Michel Barnier, qui a donc refermé cet congrès des maires, a répondu à Pascal Vittori au cours de son discours. Il a réservé ses premiers mots d'ailleurs aux maires d'outre-mer présents dans la salle et en particulier à ceux de Nouvelle-Calédonie.
Je veux saluer ici en particulier votre maire de Nouvelle-Calédonie, mais aussi des autres départements et territoires. Je veux leur dire avec François-Noël Buffet, le ministre des Outre-mer, qui est aussi ici, nous sommes attentifs à leurs difficultés, et en particulier en Nouvelle-Calédonie, dans une période extrêmement grave, après des troubles très violents, où 25% de l'économie du territoire a été détruite. Voilà une des situations que je trouve. L'aide de l'État, notamment financière, mais pas seulement financière, technique, en termes d'ingénierie économique, leur sera évidemment destinée dans le cadre d'une convention qui sera conclu prochainement avec le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, dont j'ai reçu le président, M. Mapou, il y a quelques jours. Et ce paiement, je le dis à Pascal Vittori, le paiement interviendra pour ce qui les concerne directement avant la fin de l'année.
Des propos recueillis par notre correspondant à Paris, Xavier Robert.
Le Rassemblement travaille sur l'urgence économique et l'avenir institutionnel. Ce matin, le groupe Rassemblement a fait un point sur les derniers sujets d'actualité. à commencer par les urgences économiques. Le rassemblement s'oppose à l'augmentation des emprunts. L'État a annoncé que sa garantie serait de 119 milliards de francs en 2025. Virginie Rufenacht, chef de groupe rassemblement au Congrès, sera à Paris la semaine prochaine pour défendre un plan triennal de 102 milliards de francs en subventions.
Nous serions, si nous empruntions ces 120 milliards CFP, à 650% de taux d'endettement, alors que quand vous allez voir votre banquier, il vous refuse le prêt si vous êtes à plus de 35% d'endettement. Donc clairement, ça n'est pas possible. Et aujourd'hui, dans la situation de possible effondrement complet de notre territoire, l'État doit nous accompagner par des subventions qui sont véritablement vitales pour sauver la Nouvelle-Calédonie. C'est bien sûr ce que nous allons défendre à Paris avec tous les groupes pour demander ces subventions. Nous savons que l'État indique que nous sommes que 270 000 habitants et que ces sommes sont colossales par rapport à 270 000 habitants. Mais encore une fois, il s'agit là de l'effondrement total d'un territoire français du Pacifique. L'État a donc la responsabilité de la Nouvelle-Calédonie et des Calédoniens. Et beaucoup d'entre eux ont subi les émeutes et les résultats, les conséquences de ces émeutes, sans forcément être protégés. C'est bien la raison pour laquelle nous demandons une solidarité massive et importante à l'État aujourd'hui et qui doit arriver très rapidement si nous ne voulons pas que la Nouvelle-Calédonie sombre.
Le rassemblement est aussi revenu sur la proposition du groupe Les Loyalistes de travailler sur un fédéralisme territorial. Alcide Ponga, le président du rassemblement, est satisfait que les idées du sénateur Dick Ukewe, exprimées en 1985 dans un discours au Sénat, aient travaillé ensuite par l'ancien sénateur Pierre Frogier.
Ça prouve quelque part que ces anciens-là avaient une vision, et une vision portée par des convictions qui sont dans le parti du rassemblement, quoi. Donc avec l'équipe aujourd'hui, on est toujours sur ces convictions-là, avec d'abord le premier point que le rassemblement a toujours défendu, pour des raisons non seulement de conviction, mais surtout pour des raisons de bien-être aussi de l'ensemble de la population de la Nouvelle-Calédonie, c'est de rester dans le giron français. On sort de la période de l'accord de Nouméa où il y a eu des référendums qui ont été tenus. Et donc notre rôle et notre mission aujourd'hui, c'est de respecter non seulement les convictions qui sont les nôtres, mais surtout cette expression démocratique de ces dernières années pour sortir la Nouvelle-Calédonie de cette impasse dans laquelle on est actuellement.
Le rassemblement évoque, je cite, une réalité incontestable. Il y a trois provinces, trois visions et trois dynamiques. Une vision que le rassemblement portera avec les loyalistes, mais sans entrer dans un parti unique. L'actualité judiciaire aux assises de Nouméa. Le verdict est tombé dans le procès des coups mortels sur la plage de Magenta. Deux hommes comparaissaient libres pour avoir battu à mort un membre de leur famille lors d'une fête alcoolisée. C'était le 20 juin 2021. L'un des accusés a été condamné à 7 ans d'emprisonnement. Le second à 4 ans d'emprisonnement, dont 2 avec sursis.
RRB 18h10.
Du changement à la tête du conseil d'administration de l'agence rurale, Omera Neslin, qui occupait la présidence de l'agence depuis 2 ans, a cédé sa place ce matin à Victor Tutugoro. Ce sont les administrateurs qui ont demandé à Omera Neslin de mettre cette question du renouvellement de la présidence à l'ordre du jour, nous a expliqué Lionel Brinon.
Ça fait déjà quelques semaines que l'on réfléchit à un changement de la gouvernance de l'agence rurale. Le monde agricole commence déjà à traverser aussi des difficultés. On sait que les exactions du 13 mai n'ont pas facilité les choses et les répercussions se font déjà sentir sur le monde agricole. Et l'idée, c'est le partage des responsabilités. On va avoir une année de mandature supplémentaire et donc les statuts ne le prévoyaient pas particulièrement. Mais étant donné que pendant à peu près 2 ans et demi, la province sud, par moi-même, a avant présidé l'agence rurale et qu'ensuite c'est la province des îles au travers d'Omera Neslin qui a pris la présidence, on a trouvé normal que sur cette fin de mandature, on propose à la province nord de finir la mandature et de prendre la présidence. Comme ça, les trois provinces auront sur cette mandature piloté cet outil indispensable pour le monde agricole.
Lionel Brinon, qui a été élu vice-président de l'agence rurale, est aussi le président de l'OSEF. Une info pratique, avis aux usagers de la route, les travaux de la province sud ont repris à Ducos et à Païta. À Ducos d'abord, c'est au niveau du rond-point Forest 2 que la chaussée est renforcée. Les travaux seront effectués essentiellement la nuit jusqu'au 15 décembre. Et puis à Païta, les travaux sont réalisés en journée, mais en dehors des heures de pointe, c'est l'échangeur de Païta Nord sur la VE2 qui est réaménagé. Les travaux dureront au moins jusqu'au 20 décembre. En bref, également, le parc provincial de la Dumbéa est fermé à compter d'aujourd'hui et jusqu'à nouvel ordre. Les conditions météo annoncent en effet des risques de feu et de fortes pluies. La municipalité invite la population à redoubler de vigilance. À Lifou, le collège Avila a célébré un moment spécial. L'établissement soufflait en effet sa 50e bougie aujourd'hui. Un demi-siècle d'existence qui aura vu passer de nombreux élèves et personnels, tous toujours fortement attachés au lieu rempli de souvenirs et qui a subi beaucoup de changements au fil des ans, explique Elisabeth Siapo, la directrice du collège.
50 ans, c'est beaucoup, c'est un jubilé d'or, ça signifie énormément, et surtout nous avons de la reconnaissance et aussi beaucoup de fierté. Au départ, les filles étaient séparées des garçons, il y avait un établissement à l'autre bout de l'Ifou pour les filles et un autre pour les garçons. Et ça, c'était au tout début, parce qu'il faut quand même noter que l'établissement de Avila est un établissement centenaire, donc la différence réside déjà dans la façon de pratiquer et tout le reste après, parce qu'au tout début aussi, les gens qui étaient là, ils n'étaient pas rémunérés. Donc nous sommes bien un établissement des années 2024. Tout ne va pas bien, d'autant plus que nous venons de traverser et nous traversons encore des périodes difficiles. Mais nous comptons bien continuer à vivre.
Et pour célébrer cet anniversaire, de nombreuses activités étaient organisées au collège. Cette journée était également l'occasion de refermer la semaine des langues qui se déroulait depuis lundi. Aujourd'hui, la langue Djéhou était à l'honneur. 18h13 sur Radio Rythme Bleu, on marque une dernière page de publicité avant de voir tous les événements culturels et sportifs de ce week-end sur le territoire.
Envie d'une pause gourmande à l'italienne? Gino Pizza vous régale au centre équestre La Gourmette à Magenta, en face de l'aérodrome. Sur place ou à livrer avec Nidit, profitez d'une pizza généreuse et savoureuse avec des ingrédients frais. Gino Pizza, l'allié de vos moments d'évasion, téléphone 31 91 92.
Depuis quand tu fais autant les magasins?
J'ai trouvé le secret pour dépenser moins.
Ah ouais? T'as gagné au bingo ou quoi?
Mieux que ça, j'ai découvert l'appli MDF avec le pass MDF. Ça te donne accès à des tarifs avantageux.
Sérieux? T'as chopé ça où?
Vous êtes adhérent de la MDF? Alors téléchargez l'application dès maintenant. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.mdf.nc.
1 million. 1 million de francs en bons d'achat à gagner sur RRB. Pour jouer, envoyez maintenant RRB au 40-20.
Tirage au sort le 30 novembre parmi tous les SMS.
1 million en bons d'achat à dépenser où vous voulez, quand vous voulez. Sans oublier les 100 000 francs de bons d'achat qui continuent de tomber chaque semaine. Alors n'attendez plus, RRB au 40-20.
371 francs par SMS. Règlement disponible à l'accueil de la radio.
RRB, première radio d'information.
La suite du journal est au fichu.
Et à la une de l'actualité festive, demain se déroulera, Charlotte, l'événement Cap sur la pêche à Nouville.
De 7h30 à 13h30, il sera possible de visiter des navires de pêche, mais aussi de déguster des produits de la mer. Écoutez les précisions de Benoît Beliaef, élu à la Chambre d'agriculture et de la pêche.
L'idée, c'est de s'inscrire dans la journée mondiale des artisans pêcheurs et des travailleurs de la mer, donc qui se produit également annuellement. Donc l'idée, c'est vraiment de partager, de proposer des produits de la mer, que les gens voient ce qui est produit localement. Donc c'est important dans un contexte où le consommer local est vraiment essentiel dans la crise que nous connaissons. C'est vraiment un objectif qui est porté par la Chambre d'agriculture et de la pêche. On aura une vingtaine de pêcheurs en provenance des îles, des îles Loyauté, de Bélep, du Nord et du Sud bien sûr.
Le rendez-vous est donné demain au Quai des Pêcheries à Nouville.
Et ce samedi, les Calédoniens pourront également découvrir les sorties littéraires à l'occasion du Salon des auteurs en off.
Une trentaine d'auteurs sera présent à l'Amirauté, pointe de l'artillerie à Nouméa, de 9h à 11h. L'événement est organisé par O Édition Pacifique Sud et au programme des rencontres, des dédicaces et des débats. Les précisions de l'organisateur Yannick Jean.
Un débat mémoire et histoire dans tout ça avec Louis Lagarde, Ismet Kurtovitch, Géry Delatière, Olivier Houdan. Il va y avoir un débat sur le quatrième pouvoir, les médias, et de savoir un petit peu que vont devenir aussi nos médias en 2025, parce qu'on parle tout le temps des autres, mais c'est important de parler aussi de nos outils de transmission, c'est très important. Et donc là, Pierre Ouellepa, Olivier Gelin, Yann Milin, Elisabeth Noir, Marie-France Cubada vont se rendre disponibles pour en débattre. Et puis on aura aussi le membre du gouvernement, Johan Lecourieux, en charge de la francophonie, qui va venir échanger avec l'ensemble des auteurs sur les opportunités francophones pour la littérature calédonienne.
Groupe de musique et exposition seront également au rendez-vous.
Le Monde Or célèbre demain la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes.
Un moment propice à l'échange et à la réflexion qui se déroulera à la bibliothèque Denis Frey au Pont des Français de 9h à 13h. Un vide-grenier sera également organisé. L'entrée est libre et gratuite.
Dans les îles à Amarée, depuis ce matin, on célèbre le Makoué ou le tarot de montagne. Jusqu'à dimanche, produits du terroir et tournois sportifs sont à retrouver à la tribu de La Roche. Autre ambiance, tout le week-end, le parc Brunelet accueille le marché alternatif de Noël.
Créations originales et locales seront à découvrir. En parallèle, de nombreux concerts et animations seront proposés et le tout gratuitement. Et
ce dimanche, c'est ambiance brocante à la Spank.
De 7h à 11h, faites de bonnes affaires sur la vaisselle, les vêtements et les produits animaliers. L'ensemble des fonds récoltés sera reversé au refuge de Coutiot à Dimbéa.
Farino propose son dernier marché spécial plantes de l'année ce dimanche.
De 7h à midi, amateurs de plantes pourront se retrouver sur la place de la mairie. Les stands traditionnels seront également présents. Le dernier marché de l'année se tiendra quant à lui le dimanche 15 décembre.
Merci Charlotte Coulson. Notez enfin l'organisation du marché des femmes rurales au CCT ce dimanche. Et à l'arène du sud de Païta sera proposé dimanche également un vide-grenier de 7h à midi. Et on parle sport pour terminer ce journal avec le programme du week-end. On démarre en métropole avec du football et la reprise après la trêve internationale de la Ligue 1, Jean-François Baudin.
Et oui, demain matin, Monaco et le PSG ouvriront donc cette 12e journée du championnat de France. Les Monégasques recevront Brest et le PSG accueillera Toulouse. Dans la nuit de samedi à dimanche, Marseille se déplacera dans le nord à Lens. Saint-Étienne sera opposé à Montpellier. Lyon jouera à Reims. Enfin, dans la nuit de dimanche à lundi, 4 matchs au programme. Lille-Rennes, Auxerre-Angers, Nantes-Le Havre et Nice-Strasbourg.
En football, toujours de belles affiches à suivre dans les autres championnats européens, notamment en Angleterre. Arsenal, 4e, recevra Nottingham, 5e. Manchester City accueillera Tottenham et Chelsea ira à Leicester. En Italie, la Juventus de Turin jouera contre l'AC Milan. Du rugby et la fin ce week-end de la tournée d'automne pour le 15 de France, les Bleus qui pourraient enchaîner une 3e victoire en 3 matchs lors de cette tournée.
Oui, on espère. Après avoir battu le Japon 52-12 et la Nouvelle-Zélande 30-29 le week-end dernier, les joueurs de Fabien Galthié affronteront l'Argentine demain matin. Coup d'envoi 7h10, heure de Nouméa. Notez que Peato Maovaka et Yoram Moefana, les Calédoniens, seront titulaires. Winnie Antonio également retrouve sa place. Emmanuel Meafou sera aussi en deuxième ligne.
À noter que ce week-end, l'Irlande accueillera les Fidji. L'Afrique du Sud jouera au Pays de Galles. La Nouvelle-Zélande sera en Italie. L'Australie affrontera l'Écosse. Et enfin, l'Angleterre recevra le Japon. Et puis, en parallèle de ces matchs amicaux internationaux, il y a le top 14 qui reprend après 2 week-ends de pause.
Cette 10e journée qui se jouera en quasi-totalité dans la nuit de samedi à dimanche avec un Toulon-Bayonne, Castres-La Rochelle, Lyon recevra Clermont, Montpellier accueillera Pau, Toulouse jouera contre Perpignan et Vannes accueillera Bordeaux-Bègles. Lundi matin, on suivra le derby francilien entre le Stade Français et le Racing 92 pour clôturer cette journée.
Un mot du Vendée Globe et ça continue ce week-end pour les skippers.
Pas de pause évidemment dans ce tour du monde en solitaire et sans escale. Après 12 jours de course maintenant, la flotte est au large des côtes brésiliennes. Elle se rapproche petit à petit du tropique du Capricorne et le groupe de tête ne va pas tarder à prendre la direction du Cap de Bonne-Espérance. Au dernier pointage, c'est le Français Thomas Ruyant sur Vulnérable qui était en tête.
On parle sport mécanique maintenant et on démarre avec la Formule 1.
Vos stations Shell et Pacifique, partenaires des pages spéciales Grand Prix de Formule 1 sur Radio Rythme Bleu.
Et les pilotes qui sont ce week-end à Las Vegas.
Pour le 22e Grand Prix de la saison, il n'en restera plus que deux après celui-ci. En tête du classement des pilotes, Max Verstappen a creusé l'écart sur Lando Norris, son principal poursuivant. Il possède en effet 62 points d'avance, autant dire qu'il faudrait un miracle pour que le Britannique revienne sur le Néerlandais. Côté français, Esteban Ocon et Pierre Gasly auront à cœur de réitérer l'exploit réalisé au Brésil, puisqu'ils étaient montés sur le podium, derrière l'intouchable Verstappen. Pierre Gasly qui espère aussi conserver la 6e place alpine au classement des constructeurs.
Il y a deux semaines, on était en train de se dire on est 9e et on va essayer d'aller chercher Williams, mais ça sera très compliqué. On s'est retrouvé au Brésil à être l'équipe qui a marqué le plus de points sur tout le Grand Prix. Ça a été assez fou, les conditions ont fait que on a plus de potentiel. Je pense qu'on a des armes pour se bagarrer et garder cette 6e place. Maintenant, quand on voit d'où on est parti à Bahreïn en début d'année, c'est sûr qu'on a montré une belle évolution et j'espère qu'on va pouvoir aussi continuer ça sur la saison 2025 et commencer d'une bien meilleure façon.
Et le départ de ce Grand Prix de Las Vegas sera donné donc dimanche à 17h heure de Nouméa.
C'était votre page spéciale Grand Prix de Formule 1 parrainé par Shell et Pacifique. Shell, à nouveau partenaire innovation de la Scuderia 2024. Sélectionnez le meilleur pour votre véhicule.
Et les sports mécaniques, c'est aussi le rallye WRC du Japon, dernière manche du championnat du monde.
Et c'est un Français qui a remporté la première spéciale. Adrien Fourmeau s'est imposé devant Ott Tanak. Le leader du championnat, Thierry Neuville, a signé le 5e temps à égalité avec Sébastien Ogier. Tout est donc encore possible au classement général puisque le Belge possède seulement 25 points d'avance sur l'Estonien Ottanak.
En bref, du basket, du golf et du tennis de table à suivre ce week-end sur la scène internationale.
Alors d'abord le basket et l'équipe de France dispute le 4e tour des qualifications à l'Euro. Les Bleus sont en tête de leur poule et ils ont battu Chypre cette nuit et rejouent dans la nuit de dimanche à lundi face aux Chypriotes. En tennis de table, les frères Lebrun disputent le tournoi final du WTT Tour qui rassemble les meilleurs pongistes de la planète. Après avoir été éliminés en simple, ils sont en finale du double. Et puis du golf, et dernière chance pour le Calédonien Paul Barjon de conserver sa carte l'an prochain sur le prestigieux PGA Tour. Il joue le RSM Classic, dernier tournoi de la saison. Il doit terminer dans les trois premiers pour rester sur le circuit mondial américain. Mais ce n'est pas très bien parti puisqu'à l'issue du premier tour, Paul Barjon est 113e à 10 coups du leader.
Radio Rythme Bleu, les bonnes fréquences. À Païta, c'est le 100.4.
Et sur le territoire, les sportifs seront gâtés ce week-end du trail, du surf, du taekwondo, mais aussi du padel, du tennis et du football. Et justement, on démarre avec deux tournois de foot demain.
Alors d'un côté, on jouera les demi-finales du trophée des quatre régions. Demain, à 16h, Païta sera opposé à Thiot. Et à 18h, Boulou Paris jouera contre l'AJS Coindé. Et puis demain toujours, la cinquième journée de la RCP Cup à 13h, Point-Dimy affrontera Yengen. À 15h, duel à suivre entre Ponérihouin et l'AS Watiwi.
On passe au sport de raquette avec du tennis, du padel et du tennis de table.
Alors le tennis, et le club de Coumarc organise demain et dimanche son TMC Dames, tandis que le club de Conné propose demain seulement son TMC Hommes. Il y a également ce week-end les derniers matchs de l'Open de double du tennis club de l'Olympique. En padel, 2P250 à suivre sur le territoire. Un tournoi homme au tennis club du Receiving qui a démarré hier et un tournoi dames qui se jouera demain et dimanche au Montcoffin. Enfin, en tennis de table, le top 8 de Coumac, les 8 meilleurs pongistes calédoniens et les 8 meilleures dames se disputeront demain le titre suprême sur le territoire.
Et sur l'eau, dans l'eau, c'est un week-end de compétition pour les surfeurs et les skippers.
Avec le mauvais temps de la semaine dernière, le championnat de Calédonie de shortboard a dû être reporté. Il se déroulera donc demain à Bouraille. Le championnat des croiseurs de Nouvelle-Calédonie aura lui lieu à Nouméa. Le départ sera donné demain à 13h30 en face de la baie des Citrons et dimanche à 10h Sainte-Marie.
Nouméa qui accueillera également dimanche matin la 19e édition de la Nouméenne OPT.
Oui, le rendez-vous est donné dès 8h, baie de Sainte-Marie pour les échauffements. Les 5200 coureurs inscrits et les marcheurs s'élanceront dès 8h30 sur cet événement festif et solidaire pour soutenir les femmes atteintes du cancer du sein.
Et les amateurs de sport en pleine nature auront, eux, rendez-vous à la fois, c'est demain.
Oui, pour le coup de trail qui réunira 450 participants. Il s'élancera de l'auberge de Pierra avec trois parcours proposés. Le Grand Cerf avec 13,5 km et plus de 700 mètres de dénivelé positif. Le Daguet et ses 7,5 km. Et enfin le Fond, plus accessible avec un parcours de 2,7 km.
Et puis on termine avec un mot de taekwondo. Donc demain, le complexe sportif Mélissa de la Veuve au 6e kilomètre accueillera dès 9h les championnats de Nouvelle-Calédonie. On passe tout de suite à la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et la météo, Nicolas, c'est avec vous.
Alors, cette nuit, sur l'ouest, le ciel se dégagera rapidement. Ailleurs, le temps sera sec et passagèrement nuageux. Le vent d'est-sud-est se maintiendra entre 15 et 20 nœuds en général. Localement, sur la pointe nord et le sud-ouest, en début de nuit, il soufflera à plus de 20 nœuds, avec des rafales autour de 30 nœuds. Les températures minimales augmenteront encore, entre 21 et 25 degrés, jusqu'à 3 degrés au-dessus des normales saisonnières. Demain matin, sur l'est, Bélep et aux Loyautés, quelques averses faibles et rares circuleront sous un ciel qui deviendra plus chargé. Ailleurs, le soleil sera présent malgré quelques nuages élevés. L'alizée d'est-sud-est soufflera entre 15 et 20 nœuds, localement près de la pointe nord et sur le sud-ouest en fin de matinée, proche de 20 nœuds, avec des rafales à 30 nœuds. Sur le reste de la côte ouest, le vent sera d'abord faible, puis les brises de sud-est atteindront 15 à 20 nœuds. Léo.